France Culture.
Les nuits de France Culture. En 1998, les Chemins de la musique proposaient une série retraçant la cinquantaine d'années d'existence de la musique concrète, ou plus précisément, examinait ce qu'avait été depuis 1948 et les premiers travaux de Pierre Schaeffer, le destin de ce nouveau pan de la musique contemporaine dont il avait été le précurseur. En 1998, le compositeur François Beil le rappelait dans la première émission de la série, on ne faisait plus de musique concrète et on ne disait plus musique concrète. Cette dénomination était devenue datée et on parlait à présent de musique électro-acoustique. C'était d'ailleurs au fond à tout ce que recouvrait ce changement de terme que s'intéressaient les différentes parties de ce documentaire. À tout seigneur, tout honneur, c'était à Pierre Schaeffer, à son esprit pionnier et à son héritage qu'était consacré le premier numéro que nous allons entendre. On y rappelait qui était Pierre Schaeffer, dans quelles circonstances il avait donné naissance à la musique concrète et comment son groupe de recherche de musique concrète était devenu le groupe de recherche musicale en 1958. Une émission dans laquelle, outre François Beil, témoignaient les compositeurs Luc Ferrari et Daniel Teruggi, ainsi que Sylvie Dallet, directrice du Centre d'études et de recherche Pierre Schaeffer. Les chemins de la musique, la musique concrète à 50 ans, première des cinq parties, l'esprit pionnier de Pierre Schaeffer et son héritage, diffusé la première fois le 9 février 1998 sur France Culture.
La musique concrète à 50 ans. Premier parcours, l'esprit pionnier de Pierre Schaeffer et son héritage. Avec la participation de François Beil, Luc Ferrari et Daniel Teruggi, compositeur, et de Sylvie Dallet, directrice du Centre d'études et de recherche Pierre Schaeffer. Bernard Parmigiani pour en finir avec le pouvoir d'Orphée. Sylvie Dallet, qu'est-ce qui s'est passé en 1948 qui a changé le cours de la musique?
Alors en 1948, il y a eu un polytechnicien ingénieur télécom qui s'ennuyait parce qu'il était un petit peu au placard à la radiodiffusion française, qui avait beaucoup travaillé sur le décor sonore et sur la voix dans les années 40, avec notamment l'homme de théâtre Jacques Copeau, et qui se trouvait donc désœuvré dans le studio d'essai qu'il avait fondé. Et il décide de réfléchir à une musique qui reflète le monde tel qu'il le conçoit, c'est-à-dire un monde hétéroclite. Et ce monde hétéroclite, comme il le fait d'habitude, il note ses impressions, ses idées sur son journal, tel qu'il le fait depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Et il commence à apporter dans le studio d'essai tout ce qu'il peut trouver comme instrument hétéroclite, plutôt des outils qui pourrait faire ce qu'il appelle à l'époque une symphonie de bruit. Et cette symphonie de bruit, donc en fait, il commence à travailler à partir de matériel qu'il demande à l'administration, et il remercie l'administration de lui prêter des appos, des crécelles, des noix de coco, des trompes à bicyclette, etc. Et donc ça, c'est à partir de janvier 1948. Et assez rapidement, il se rend compte que les sons, pour être bien entendus, doivent être analysés à partir de l'enregistrement. Donc, c'est-à-dire qu'il passe du studio d'essai, de l'atelier en quelque sorte, où il est en train de clouer des différentes pièces et les assembler, à faire du bruit, à les frotter, donc tous des phénomènes acoustiques qu'il retrouvera durant toute sa vie, à la cabine d'enregistrement. Et là, à partir de la cabine d'enregistrement, c'est-à-dire à partir d'avril, il s'aperçoit que quand il écoute le son d'une cloche et qu'il en coupe la taque, eh bien, ça ne fait plus du tout le son d'une cloche, ça fait le son d'un hautbois.
Avant d'en terminer avec les sons brefs, montrons encore qu'ils ne sauraient constituer les données élémentaires d'une synthèse, briques de sensation des uns, éléments différentiels des autres. Écoutez ceci. C'était deux fragments accolés de 50 millisecondes chacun que voici séparés. Même difficulté pour ces deux autres fragments accolés que voici séparés.
Pierre Schaeffer, étude au tourniquet.
Donc il se rend compte que, en fin de compte, le monde, ben, au fond il le savait un petit peu, mais le monde est composé d'une infinité de sons et que la note est une convention qui correspond à une certaine culture occidentale. Ça, je vais un petit peu vite, bien sûr, parce qu'il y a des sortes de ramifications. Et il va commencer à travailler sur des objets sonores, des matériaux sonores. Et il va passer donc de la cloche, qui a été en fait le premier élément détonateur, en quelque sorte, au chemin de fer, parce que il lui semble que justement le chemin de fer est l'élément symbolique. En fait, Schaeffer va décider de travailler beaucoup plus l'enregistrement du son. Et c'est à partir de l'enregistrement et des prélèvements de fragments sonores que va naître la nécessité et la volonté, telle qu'il l'a vue au début, mais il ne l'avait pas eue à partir de l'enregistrement, il l'avait eue à partir de bruits, d'instruments. Pas d'enregistrement, de faire des assemblages de sons et à partir de cet assemblage de sons, de travailler sur des musiques. Alors la première musique telle qu'il l'a composée, c'est l'étude au chemin de fer, puisque c'était justement le premier enregistrement qu'il avait fait en gare de Batignolles. Et par la suite, il va raffiner beaucoup cette approche parce que les prélèvements vont être faits avec des machines qu'il va faire breveter, dont la première, le phonogène. Et puis, par la suite, il va donc essayer de remixer, de réutiliser les instruments traditionnels, les voix et tous les éléments de bruit, de son, de musique du monde contemporain qui nous entoure. Alors cette musique donc a deux directions. D'une part, en effet, une musique, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une esthétique, et d'autre part, pour Schaeffer, essentiellement une recherche qui doit faire communiquer toutes les musiques du monde, et particulièrement donc la musique occidentale avec la musique, à l'époque il l'appelait exotique, mais ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques du monde.
Thank you. Au sens strict, la musique concrète, j'ose dire, on n'en fait plus. Donc c'est un terme daté. La musique concrète fut une musique d'irruption.
François Bell.
De bruit. Le premier concert de Schaeffer, c'était un concert de bruit. C'était finalement l'emploi musical de tous les sons qui étaient exclus de la musique. On peut dire ça. Et notamment les sons d'origine non instrumentale, les bruits de trafic, les bruits de locomotive, les bruits de tout, les ratés. Bon. Et on peut dire que de cela, il en reste une esthétique du dérisoire, une esthétique des sons poubelles, une esthétique agaçante, une esthétique m'as-tu vu, une esthétique de tapage, et quelque chose qui tout de même a une portée polémique violente qui consiste à renvoyer l'art bourgeois à sa place et lancer quelque chose qui soit plus jeune, qui agrandisse l'horizon et qui autorise finalement des attitudes non musicales. Bon, on peut dire ça.
C'est... Vos musiques étaient bien choisies alors ?
Ben oui, parce que justement c'est ça la provocation. Si on avait dit l'art concret, ça aurait eu une portée beaucoup plus mince du point de vue révolution. Ce qui était intéressant, c'était de porter le feu dans la maison même de la musique. Il s'agissait de décoiffer la musique, hein, rien d'autre que ça. Hein.
Pierre Henry et Pierre Schaeffer, symphonie pour un homme seul. L'expression musique concrète vient de Pierre Schaeffer. Est-ce qu'il a hésité avant de donner cette définition ?
J'ai étudié les textes de Schaeffer publiés depuis son origine. C'est un mot qu'il affectionne tout particulièrement. Alors dans le journal, on le retrouve dès les premiers mois de 48. Alors donc le 1er avril 48, je cite, « On comprendra mieux le malaise du musicien concret si l'on compare ses intentions et ses moyens. » Je crois que ça résume un peu tout le problème de la musique concrète. Par la suite, par contre, il va raffiner dans son journal, donc à la recherche de la musique concrète qui vient d'être rééditée, en disant que cette musique est également une musique très abstraite, non pas à cause de la notation, mais à cause justement d'une sorte d'assemblage qui est fait sur des principes dont on aura à reparler par la suite. Mais l'opposition abstrait-concret est une opposition évidemment très ancienne dans la mesure où il rapproche la musique concrète des arts plastiques du début du siècle, du surréalisme et du cubisme.
Pierre Schaeffer, étude aux objets, objets exposés.
Schaeffer se disait, avouait qu'il n'était pas un musicien. C'est à peu près vrai, il était bien placé pour le dire. C'est vrai qu'il n'avait pas l'étoffe d'un créateur exclusivement musical. Mais néanmoins, je soutiens que Schaeffer avait un son de musicien. Et je connais beaucoup de créateurs professionnels musicaux qui sont loin d'avoir son son et qui sont loin d'avoir laissé une trace dans la musique. De sorte que, qu'on attrape au hasard n'importe quelle œuvre de Schaeffer, on y entend cette espèce de sonorité métallique et cette espèce de sens critique extraordinaire, cette litote perpétuelle, parce que c'est quelqu'un qui sait faire court et qui sait donner de la densité aux formes brèves. Alors que ce soit les études de 48, que ce soit le retour de 58, c'est-à-dire déjà une vision beaucoup plus abstraite de la musique concrète, et qui a énormément touché Olivier Messiaen, par exemple, que ce soit l'étude des objets, c'est-à-dire, il y a un cri chez Schaeffer qui me touche énormément.
Luc Ferrari, la musique concrète a donc 50 ans.
Ça ne nous rajeunit pas.
Est-ce que le mot concret était le bon mot ?
Ça, c'est pas un problème pour moi. Je pense que concret, c'est un mot que j'aime. Abstrait aussi. Parce que, justement, il y a la possibilité de jouer sur les deux et de faire une espèce de mesure entre le concret et l'abstrait. Et donc moi j'ai employé le terme dans son sens le plus réel, c'est-à-dire de rapprochement avec le phénomène naturel. Et les musiciens concrets de l'époque étaient beaucoup plus abstraits que moi.
Luc Ferrari, visage 5.
Comment on utilise le son ?
Daniel Tirugi.
Est-ce que le son est un produit d'élaboration ou est-ce que le son a par exemple tendance à être brut ? Il y a beaucoup de musiques qui se font avec des sons dans l'état brut, qui essayent soit d'utiliser le côté dur, parfois agressif, parfois réaliste des sons et les mettre en valeur, pour faire une espèce de montage cinématographique à partir de sons. Et des gens qui travaillent avec le son d'une manière tout à fait abstraite, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que ce son ressemble à quelque chose de déjà connu, qui travaille dans l'inouï sonore. Donc ça ferait deux tendances qui, d'une part, dépassent le cadre des musiques électroacoustiques. C'est les compositeurs qui ont travaillé avec des rapports, des valeurs, des durées, des hauteurs, et des compositeurs qui, même avec de la musique instrumentale, ont travaillé directement avec le son. Si vous prenez Chopin, ce qui compte, c'est exploiter la sonorité du piano et les mélodies, les harmonies et tout le reste. C'est un bon prétexte qui va dans cette direction. Quand vous prenez un air de la fugue de Bach, c'est de la valeur à l'état le plus pur. À la limite, le son est une espèce d'explication de ce qui se passe dans l'écriture et où les rapports entre les sons sont extrêmement calculés avec, bien sûr, une vision musicale derrière. Alors, ça, c'est deux grands versants de la musique, qui se retrouvent dans la musique électroacoustique. Et puis, quand on rentre dans le domaine sonore, ces deux versants que je viens d'expliquer, travailler avec le son à l'état pur et le son à l'état élaboré. Et ensuite, on trouve des panachages entre tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire des gens qui utilisent un peu de l'un, un peu de l'autre, et considérer que la musique est faite de ça.
Pierre-Henri, au voltage.
Je crois qu'il y a eu un accident heureux qui fait que Pierre-Henri a eu envie d'aller à la rencontre de Pierre Schaeffer à la suite de la classe d'Olivier Messiaen et qu'il s'est passionné pour cette musique. Et que donc a commencé en 1949, donc un an après les débuts de Schaeffer, une collaboration qui a duré jusqu'en 1957, puisque Pierre-Henri avait été délégué lors du groupe de recherche de musique concrète, alors que Schaeffer s'occupait, avait une mission en Afrique, de créer la radio-diffusion africaine. Pierre Schaeffer l'avait délégué avec Jacques Poulain et avec aussi Artuis pour s'occuper du groupe de recherche de musique concrète qu'il avait créé. Sur des principes que Schaeffer avait dictés au départ, qui étaient une recherche à la fois appliquée et fondamentale. La collaboration s'est arrêtée donc à partir de 1957 pour des motifs assez complexes, assez historiques. Schaeffer trouvait que la recherche fondamentale n'était pas assez suivie par Pierre-Henri qui cherchait souvent à faire des illustrations de films. Et donc en fait avait une direction de compositeur, alors que Schaeffer a toujours voulu maintenir la barre sur la recherche encore une fois non pas esthétique mais acoustique, sociale, culturelle, etc. Donc il a repris la barre du GRMC, l'a dissous et a refondé un groupe de recherche musicale qui lui semblait correspondre beaucoup plus à ses ambitions de début. Et donc il a refondu entièrement le système, il l'a réadapté et le groupe de recherche musicale a perduré à travers le service de la recherche.
François Bell, vous êtes entré dans la musique concrète, à quel moment et de quelle manière ?
Ben, moi je suis rentré comme tout le monde au moment de l'adolescence et moi je ne fais pas partie des pionniers. Les pionniers c'est Schaeffer, Henri, Xenakis, Stockhausen. J'ai la chance, mais la malchance, de ne pas faire partie des pionniers, d'être plutôt les gens qui, à partir d'une révolution, ont été dans la situation de devoir construire à travers les débris et occuper cet espace. Autrement dit, mon travail était un travail finalement de reconnaissance du terrain, établir une cohésion de groupe et faire en sorte que l'aventure individuelle ne soit pas une étincelle qui s'arrête vite et qui reste simplement au niveau de l'événement individuel, mais devienne une vraie entreprise musicale profonde. Et je pense que la maison GRM, si je n'avais pas été là, ne se serait pas faite. Parce que ni Schaeffer, ni Henry, ni Ferrari, ni Mach, ni Xenakis, ni Boukhorechtchev, ni Philippot, et j'ai cité les noms de tous les acteurs des premières journées, des premiers mois, des premières années, n'avaient envie de créer des maisons, n'avaient qu'envie que de les fuir au contraire, et de les démolir si possible. Donc, non seulement je les ai connus, mais j'ai eu, je pourrais dire, la tâche ingrate de leur succéder, pour ne pas dire de les faire déguerpir.
François Bell, Espace inhabitable. Donc la musique concrète serait une des dernières aventures collectives de notre temps, alors qu'au fond, les musiciens qui seraient plus dans la tradition classique de la musique instrumentale seraient beaucoup plus individualistes.
Oui, comme les arts qui sont, qui deviennent classiques, ensuite deviennent affaires individuelles, parce que la musique, comme tous les arts, nécessite une pratique très profonde. Tous les noms qui ont été au démarrage de cette grande aventure sont des noms de grands créateurs, de grands individualistes, et je leur donne entièrement raison d'avoir préféré leur aventure personnelle. Il fallait être jeune, il fallait n'avoir aucun nom, il fallait avoir rien dans les poches pour se lancer dans l'aventure collective. Il fallait être, je ne sais pas, comme les premiers Européens qui envahissaient l'Amérique, il fallait être des sortes de hors-la-loi, de sans-papiers, de sans-permis de séjour, pour envahir ces terres-là.
Ivo Malek, Reflet. Chemin de la musique concrète à 50 ans, par Christian Rosset, réalisation Evelyne Gayou, avec la participation de François Bell, Luc Ferrari et Daniel Théroudji, compositeur, et de Sylvie Dallet, directrice du Centre d'études et de recherche Pierre Schaeffer. Demain, support et mémoire, la question de la technologie dans la musique concrète.
Cette émission a été diffusée le 9 février 1998 sur France Culture. À suivre.